Bonjour, aujourd'hui dans Jardin d'Isis, je me suis rendue à l'Odève, au musée de l'Odève, où j'ai découvert l'exposition de cet hiver, ouverte au public depuis le 26 septembre, qui durera jusqu'au 28 février 2021. Et j'interview Madame Yvonne Papin-Drasty, conservateur en chef du patrimoine, directrice du musée de l'Odève. Cette exposition s'intitule « Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité ». L'exposition invite à découvrir les artistes de la Société Nouvelle de peintres et sculpteurs, confrérie artistique la plus célèbre et la plus caractéristique de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Cette émission passe sur Radio-FM+, le 8 octobre, mais on peut la retrouver en podcast sur les podcasts du 8 octobre 2020, afin de pouvoir découvrir cette interview et Madame Papin-Drasty qui nous parle de ses magnifiques tableaux. Cette exposition s'intitule « Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité ». Bon, elle invite à découvrir les artistes de la Société Nouvelle. La Société Nouvelle regroupe des peintres et des sculpteurs issus de la génération symboliste. Des peintres et sculpteurs qui ont tous respiré le parfum de l'impressionnisme. Chacun d'entre eux a son propre style, mais tous partagent une vision sentimentale de la nature. En respectant la véracité des apparences, ils perpétuent les valeurs permanentes de l'art européen, le souci de l'évocation et de la psychologie. C'est ainsi qu'ils furent qualifiés d'intimistes. L'intimisme est le dernier courant majeur de l'art français à être dévoué à la nature. Les mouvements successifs de l'art contemporain s'en sont depuis écartés. Pour cela, nos artistes furent considérés à la fin de leur carrière comme les derniers représentants de l'impressionnisme. Ce sont principalement les peintres qui assurent la notoriété et l'unité du groupe. Edmond Amangean, Eugène Carrière, Émile Clauss, Charles Côté, André Dauchez, Georges Desvalières, Gaston Latouche, Ernest Laurent, Henri Le Sidaner, dont l'arrière-petit-fils est le commissaire de l'exposition, Henri Martin, René Ménard, René-Xavier Prinet, Jean-François Raffaelli, Lucien Simon Fritz Tholow. De 1895 à 1939, ces peintres font l'unanimité auprès du public et de la critique. Ils figurent dans toutes les expositions internationales. Cette exposition est riche de plus de 70 peintures et d'une trentaine de dessins et d'estampes. Elle fait étape à l'Odève. C'est la première en France à rendre à ce courant l'importance qui lui revient. Et nous allons écouter Madame Papin qui parle de cette superbe exposition. Bonjour Madame Papin-Drasty, avec Radio-FM+, je souhaitais vous interviewer autour de cette nouvelle exposition qui a lieu au musée de l'Odève et qui sera ouverte au public, quel jour ?
À partir de samedi 26 septembre.
À partir de samedi 26 septembre, je précise, ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h
à 18h.
D'accord. Et donc cette nouvelle exposition a pour thème des artistes de la Société Nouvelle, peinture de l'intimité ou intimiste. Vous pouvez nous préciser déjà qu'est-ce qu'on peut entendre par cette peinture intimiste ? Qu'est-ce qu'elle est ?
Oui, alors c'est un sous-titre que nous avons donné à cette exposition. Parce qu'en effet, il s'agit de personnalités multiples qui sont tous membres de cette fameuse Société Nouvelle, des peintres et des sculpteurs qui voient le jour en 1890 et qui est représentée par une galerie importante, la galerie de Georges Petit à Paris. Mais néanmoins, il s'agit donc d'individualités très différentes qui s'expriment de manière très différente. Mais qu'on peut regrouper effectivement sous ce terme d'intime, puisque ce sont tous des peintres qui sont assez proches du réel et qui essayent à la fois de rentrer un peu dans la psychologie des personnages, en tous les cas pour les portraitistes, Et ce qui les unit tous, c'est de faire appel à l'impressionnisme, enfin puisqu'ils ont tous été influencés par l'impressionnisme, et donc ils utilisent tous, plus ou moins, et de manière très différente, cette touche impressionniste ou néo-impressionniste.
On peut parler d'ailleurs de l'usage de la touche en peinture, comme on peut le constater dans certaines œuvres, qui peut et aussi du pointillisme, plus ou moins.
Oui, alors il y a un premier groupe d'amis et de peintres qui ont des affinités, que sont Edmond Amangean, Ernest Laurent, Henri Martin et Henri Le Sidaner. De ces quatre, c'est sans doute Henri Martin qui est le plus connu aujourd'hui. Edmond Amangean était très ami avec Georges Seurat, et donc ces quatre-là ont de toute évidence été en rapport direct avec l'œuvre de Seurat. Néanmoins, ils se refusent tous à appliquer doctrine un peu stricte qu'est le néo-impressionnisme édicté par les lois de Chevreuil sur la couleur et sur la juxtaposition des couleurs primaires. Et donc, ils prennent tous une certaine liberté avec ce néo-impressionnisme.
Vous disiez que certains peintres insistaient sur la complémentarité des couleurs dans la composition de leurs œuvres. Je pense que c'est Henri Martin.
Oui, alors c'est pas tellement... Non, en fait, c'est pas tellement la complémentarité, c'est que... ce qu'on peut voir dans les œuvres d'Henri Martin, notamment dans ses études pour des grands décors, c'est l'utilisation d'abord d'une touche très particulière qui est un peu comme des virgules. Et souvent, ces scènes qui représentent des scènes de labeur ou de récolte de faneurs, etc., qui sont donc des décors pour le Conseil d'État sur le thème du travail, c'est souvent les personnages qui... les vêtements des personnages dans lesquels ils jouent avec la couleur et qui, du coup, se détachent sur un fond qui, lui, est traité de manière un peu plus... on va dire un peu plus monochrome. En tous les cas, c'est le cas d'un tableau en particulier qui s'appelle Les Paveurs et qui représente donc des terrassiers sur la place de la Concorde et qui est une de ces études préparatoires pour les grands décors du Conseil d'État.
le peintre Edmond Amangean, également Ernest Laurent présentent des palettes de couleurs qui sont plus complémentaires, avec des explosions de couleurs au niveau de la scène des vendanges, par exemple.
Oui, alors la scène des vendanges, c'est toujours Henri Martin. Mais Ernest Laurent, effectivement, est un peintre intéressant aussi parce qu'il utilise cette juxtaposition pour, comme Henri Le Sidaner d'ailleurs, il joue sur des effets un peu de flouté. Et dans ces tableaux que l'on peut voir, il y a notamment un très joli portrait de jeune fille au chapeau de paille dans lequel la touche lui permet d'englober, de faire fusionner presque cette figure féminine avec le fond et notamment avec les fleurs. Il y a chez Ernest Laurent toujours un côté un peu, on va dire, spirituel qui fait qu'il associe souvent la femme à la symbolique des fleurs. Et dans ce merveilleux portrait qui est très lumineux, etc., il y a vraiment cette fusion qui se fait au travers d'une touche très, très vibrante et liante, et avec un léger flouté toujours très présent chez cet artiste.
Alors dans ce courant, il y a des artistes qui vont mettre l'accent sur la peinture féminine, sur les portraits des portraitistes, et d'autres artistes qui vont s'intéresser à la vie courante, donc comme vous disiez, les paveurs, ou alors le peuple de Bretagne.
Oui, alors notamment pour les Bretons, c'est notamment les membres d'un petit groupe qu'on a appelé la Bande Noire, pour faire référence à leur utilisation peut-être de couleurs plus sombres. Alors ce sont un groupe de 5 peintres, Charles Côté, Lucien Simon, André Daucher et Émile-René Ménard, qui, eux, se relèvent plus se revendiquent plutôt de quelqu'un comme Courbet. Et donc, ils sont dans une peinture, effectivement, assez proche du réel. Et ils sont fascinés, avec toujours, là encore, des expressions très différentes, par le travail des marins. C'est le cas pour Charles Côté, qui s'immerge totalement dans cette vie de marin pour la vivre au plus près, pour représenter les ports, notamment le port du Camaret avec les voiliers, etc. Ou de quelqu'un comme Lucien Simon, qui lui va s'intéresser à des sujets de pardon ou de récolte de pommes de terre, etc.
Est-ce qu'on peut parler aussi de Henri Le Sidaner ? On nous expliquait qu'il a construit un jardin et qu'il le peignait sous différentes lumières, de différentes façons, mais pratiquement tout le temps les mêmes scènes.
Alors, Henri Le Sidaner a eu plusieurs carrières. Alors, avant 1894, il fait partie d'un groupe qui est également représenté dans l'exposition, qui s'appelle qu'on a appelé le groupe des Taples. Ce sont des artistes qui, un peu comme à Pont-Aven, s'installent à Étaples, dans ce petit village du Nord-Pas-de-Calais, et vont peindre des scènes, encore une fois, assez réalistes, avec des lumières un peu du Nord. Après cette période, il a une période où il va vivre à Bruges, et c'est là, à la toute fin du 19e, qu'il va trouver son style. Qui est un style, ce qui va caractériser Le Sidaner, c'est une symbiose entre le symbolisme et l'impressionnisme. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la fin du siècle à des scènes nocturnes avec des effets de lumière, avec des effets de lune, etc. Il y a un très très beau tableau dans l'exposition qui s'appelle La Place de la Concorde, qui a été peint au moment de la grande inondation qui est très très typique de cette période. Et ensuite, à partir de 1901, il loue dans un premier temps une maison à Gerberoy dans l'Oise, qu'il va ensuite acheter en 1904. Et au même titre que Claude Monet, il va s'attacher à y faire un jardin fantastique. Donc au fur et à mesure, il rachète des parcelles Et il va y créer des jardins presque monochromes. Le premier, ce sera un jardin blanc, ensuite il y a un jardin bleu. Et donc, ces tableaux, à partir de 1904, ça va devenir le sujet principal de son œuvre, à partir de 1904. Et il va montrer, pour la plupart du temps, des scènes de table dans ces jardins, avec toujours une dominante de couleur particulière. Et ce sont des scènes absolument merveilleuses, dans lesquelles on a toujours l'impression que des invités viennent tout juste de se retirer. Il n'y a jamais de présence humaine, mais elle n'est jamais très loin. Et avec un sens des couleurs et de la composition qui est très, très, très poussé.
Thank you.
Alors justement, parmi ces peintres qui sont exposés dans l'exposition, il y a des artistes attachés à la province et puis d'autres qui seront plus attachés au mouvement parisien, à la peinture, et qui se retrouvent dans des salons. On pourrait parler de Gaston Latouche peut-être, avec justement une peinture particulière, imprégnée peut-être de rêverie, de...
Oui, alors Gaston Latouche, c'était un peintre très, très à part, autodidacte, qui n'a jamais quitté son Saint-Cloud natal et qui va s'inspirer alors à la fois de la peinture finalement du XVIIIe siècle et notamment de Watteau. Et aussi, sa source d'inspiration, c'est les parcs du jardin de Versailles. Et il va composer des scènes très fantasques. Alors, qu'il s'agisse d'aborder des sujets religieux ou des allégories mythologiques, c'est toujours d'une manière très personnelle, avec beaucoup de fantaisie. Et puis, on pourrait citer aussi parmi les peintres, disons un peu plus urbains, Antonio de la Gandara, qui est un portraitiste, alors qui va être introduit dans le milieu mondain et de l'aristocratie. Dans lequel il va avoir un énorme succès. C'est un peintre qui est inspiré par les grands peintres espagnols, Velázquez, Ribot, etc., et qui va peindre des portraits de femmes absolument magnifiques, avec toujours des modèles très longilignes qui se détachent sur un fond sombre, et où finalement la présence vient d'une robe, d'une couleur... éclatante et avec des draperies qui sont traitées de manière très très virtuose.
Quant à cette exposition, vous évoquiez la peinture d'entre-deux-guerres, donc on pourrait parler de ce tableau qui est présent sur l'affiche qui présente l'exposition, focus sur la plage à Cabourg.
Oui, alors c'est ce fameux Prinet qu'on évoquait tout à l'heure, René-Xavier Prinet, qui pour moi est une découverte, je ne connaissais pas ce peintre. Qui s'installe donc à Cabourg et qui peint toute la belle époque. C'est un peintre qui est très intéressant parce qu'il il a une manière de composer les scènes qui sont extrêmement nouvelles, avec des perspectives très particulières et des scènes assez cocasses parfois. Il y a un petit tableau qui s'appelle L'âne demandé qui montre une scène de plage dans laquelle intervient un âne. Enfin, c'est un très beau peintre.
Il y a également un peintre des banlieues, Jean-François Raffaelli.
Oui, Raffaelli est un peintre qui va s'intéresser à la vie des faubourgs et qui va peindre des tableaux très, très fins, très subtils, avec toujours une espèce de fourmillement des scènes de foule de l'époque.
Ce que je retiens, c'est cette explosion de couleurs et puis la lumière qui se détache de certains tableaux.
Oui, il y a là-dedans des virtuoses de la couleur et de la lumière comme Henri Martin et sous une autre forme comme Émile Claus, le peintre belge, le grand peintre belge de l'impressionnisme. Ou Gaston Latouche, mais d'une manière complètement différente, effectivement.
Et cette société nouvelle, donc elle a eu un grand succès jusqu'en 1939, je crois, à peu près. Après, je crois qu'on en a beaucoup moins entendu parler, puis elle a été les courants, ces peintres-là ont été redécouverts à partir des années 50-60.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire de l'art a retenu l'avant-garde. C'est vrai que l'avant-garde, il ne faut pas oublier que ce sont des peintres qui l'avant-garde à l'époque est rejetée. Donc ce sont ces peintres-là qui ont du succès. Mais l'histoire de l'art, elle va s'intéresser à la révolution qu'ont été les différentes avant-gardes. Et donc elle va faire passer un peu dans l'oubli tous ces peintres. Qui sont depuis on va dire, peut-être pas les années 50, même peut-être, je dirais, un peu plus récemment, réhabilité et redécouvert.
Redécouvert grâce au public, aux collectionneurs.
Oui, et aux musées qui font des expositions pour les faire redécouvrir.
Pour défendre leur œuvre.
Par exemple, Antonio de la Gandara a bénéficié d'une grande exposition au musée du Petit Palais à Paris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, de mémoire de 3 ans. Fritz Tolo a bénéficié d'une très belle exposition au musée des Beaux-Arts de Caen en 2016. Voilà, donc ce sont quand même des artistes qui bénéficient aujourd'hui de grandes monographies.
En conclusion, vous diriez ?
Eh bien, qu'il faut absolument venir voir cette exposition, parce que c'est vraiment une découverte, y compris pour des historiens de l'art comme moi.
Oui, et pour nous, après, encore plus précisément, donc, occasion de découvrir des tableaux que nous, et des artistes, d'admirer les œuvres d'artistes que nous n'avons jamais admirées auparavant. Merci, Madame Papandrastic.
Merci à vous.
Mm-hmm.